Les textes bibliques font mention de centaines de personnages et de lieux géographiques qui forment comme la trame sur laquelle se fixe la révélation et le message de Dieu aux hommes. Lorsqu'on parle d'Our en chaldée, par exemple, on pense à Abraham, car la Bible nous dit que le patriarche quitta cette ville chaldéenne pour se rendre dans le pays indiqué par Dieu. De même, le pays d'Égypte est associé au récit biblique de l'esclavage des Israélites et de leur délivrance par Moïse. Et qui n'a pas entendu parler de Sodome et de Gomorre, des murs de Jéricho, du palais de Salomon, des Philistins, des Hittites, d'Hérode et de Ponce Pilate? Or, très récemment encore, on mettait en doute l'authenticité de la plupart des événements rapportés dans la Bible. On doutait de l'existence de certains personnages. On déclarait ouvertement que la Bible, surtout l'Ancien Testament, n'est qu'un assemblage de récits fabuleux et mythiques, issus de l'imagination fertile des Orientaux. En effet, qui voulait croire au récit biblique de la prise de Jéricho? Qui avait jamais entendu parler d'un peuple hittite? Au début du XIXe siècle, dit l'archéologue Charles Marston, on ne connaissait à peu près rien de l'histoire des anciens peuples orientaux, si ce n'est par la Bible et par le témoignage tardif de quelques auteurs classiques. Il était donc nécessaire d'accepter ou de rejeter en bloc ce que révélait la Bible. Pour les uns, le texte sacré ne devait être mis en doute sur aucun point. Chacune de ces affirmations avait valeur de dogme et toute discussion, toute critique prouvait un mauvais esprit. Pour les autres, l'histoire des anciens peuples de l'Orient demeurait inconnue puisqu'on ne pouvait se fier aux légendes et aux mythes rapportés par les vieux écrivains bibliques. Le général Bonaparte a changé tout cela. L'expédition d'Égypte, en effet, fut peut-être un échec militaire, mais à coup sûr, une grande réussite scientifique. Pour la première fois, des savants occidentaux allaient prendre un contact direct avec ce qui subsistait encore des grandes civilisations disparues. L'archéologie allait dès lors se révéler comme la plus grande collaboratrice de la foi chrétienne. La Bible avait raconté un certain nombre d'événements. Les fouilles et le déchiffrement des inscriptions antiques ont démontré que ces événements n'avaient pas été purement imaginaires. Par exemple, l'Ancien Testament fait souvent mention des fils de Heth, les Estiens ou Hittites. Le livre de la Genèse déclare notamment que c'est aux fils de Heth qu'Abraham acheta du terrain pour ensevelir son épouse Sarai. Les deux épouses d'Ésaü, en outre, étaient des Hittites. On s'est longtemps demandé qui étaient les Hittites. Certains critiques ne se retenaient pas pour affirmer que ce peuple était purement imaginaire. C'est peu après le début de notre siècle qu'on redécouvrit, au cœur de la Turquie, des traces de ce peuple totalement tombé dans l'oubli. Sur un plateau situé à l'est d'Ankara, le fleuve Halis décrit un immense arc de cercle. Presque en son centre se trouve Bogaskoy. C'est précisément auprès de ce village qu'un égyptologue allemand, le professeur Hugo Winkler, découvrit en 1905 une série de tablettes cunéiformes, parmi lesquelles se trouvait aussi un curieux document en écriture figurative. Les savants ne furent pas les seuls à s'intéresser aux résultats de cette découverte, et le monde apprit avec étonnement quel genre de peuple étaient ces fils de Heth, comme les appelle la Bible. Lorsque les documents eurent été traduits, les Hittites, ce peuple indo-germanique, jusque-là inconnu, et leur puissant empire disparu, ressuscitèrent pour nous. C'est là un exemple parmi cent autres. La fosse au lion et le four de Babylone dont parle le prophète Daniel, les silos à grains construits par Joseph, vice-roi d'Égypte, qui servent encore de modèle aux silos canadiens et américains, l'itinéraire des Israélites prenant possession de la terre promise, tous ces détails historiques et géographiques ont été mis à jour par l'archéologie, cette science encore jeune qui entreprend de ressusciter les civilisations enfouies et qui confirme sans cesse les affirmations toutes simples du livre des livres. Encore un exemple. La Bible raconte la prise de Jéricho par les soldats de Josué, successeur de Moïse. Ce n'est qu'en 1932 que le professeur Garstang, pratiqua des fouilles parmi les ruines recouvertes de sable, avec l'assistance de plus de 100 000 ouvriers, sur le site supposé de l'ancienne Jéricho. C'est là, en effet, qu'il constata que le récit biblique avait encore dit vrai. Les murs de la ville étaient tombés, effectivement, mais très curieusement, à plat vers l'extérieur, comme poussés de l'intérieur par un souffle terrible. De plus, il est dit que Josué offrit au Seigneur, en guise de sacrifice, l'incendie de la cité entière, et qu'il avait interdit le pillage de la ville. Les fouilles ont confirmé que la ville a été effectivement incendiée, mais non pillée. En outre, le récit biblique semble indiquer que la ville ne possédait qu'une porte. Les fouilles pratiquées ont confirmé l'existence d'une porte unique. Mais il n'y a pas que l'Ancien Testament qui soutienne avec sérénité le test de l'archéologie. Le Nouveau Testament a lui aussi été violemment critiqué et ridiculisé par des raisonnements soi-disant scientifiques et réhabilité par l'intervention de l'archéologie. La bonne nouvelle de l'avènement du Christ dans l'histoire des hommes a été proclamée dans un lieu donné et à un moment donné. Le Nouveau Testament foisonne, lui aussi, en lieux géographiques, en événements et précisions historiques. Il faut constater, en effet, que le Nouveau Testament est très généreux en précisions de ce genre, comme pour inviter, en quelque sorte, un contrôle éventuel. Prenez par exemple les premières pages de l'Évangile de Luc. Ce dernier tient à situer ses personnages dans un cadre historique précis. Son récit ne commence pas par « Il était une fois un homme appelé Jean ». Il dit que Jean était fils d'un sacrificateur juif nommé Zacharie de la classe d'Abia et qu'il commença à prêcher la 15e année du règne de Tibère César lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode était tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Avec des détails de ce genre, qui sont autant de points de repère précis, les historiens peuvent déterminer l'année et le mois des événements qui suivent. Or, la précision historique et géographique de Luc, tant dans son évangile que dans le livre des Actes des apôtres, dont il est l'auteur, cette précision, disais-je, est telle que les archéologues et historiens modernes sont dans l'admiration. Par exemple, Luc désigne le gouverneur de l'île de Chypre comme le proconsul Sergius Paulus. Les historiens savent en effet que l'île de Chypre était une province sénatoriale depuis 22 avant Jésus-Christ et qu'à ce titre, elle n'était plus gouvernée par un légat impérial, mais bien par un proconsul, comme Luc le précise. Dans le chapitre 17 du livre des Actes, Luc parle de certains magistrats qu'il désigne en grec par le titre « Polytarque ». Nulle part, la littérature classique ne faisait mention d'un tel titre. Et sur la foi de ce silence des sources profanes, on affirmait que Luc avait commis une erreur. Jusqu'au jour où l'archéologie découvrit quelques 19 inscriptions qui démontrent que le titre « Polytarque » désignait les magistrats des villes macédoniennes. De même, Luc parle des « prêteurs », des licteurs et des asiarques, attribuant exactement à tous ces personnages les titres qu'ils possédaient à l'époque. Les historiens déclarent même que c'est là en soi un rapport tout à fait admirable, même pour un journaliste du 1er siècle, à cause de ces détails si scrupuleusement exacts. Personne n'aurait été capable d'inventer ces détails. Et si cette histoire est imaginée de toutes pièces, il faut avouer que son inventeur est encore plus fabuleux que son invention. Non, une élémentaire logique nous ordonne de voir dans ces pages bibliques le rapport d'un témoin oculaire. Un dernier détail. Le nom de William Ramsay est souvent cité pour illustrer la victoire de la Bible sur le scepticisme des savants. Lorsque Ramsay commença son travail de recherche sur la géographie et l'histoire de l'Asie mineure, recherche qui devait faire de lui une autorité en la matière, il était persuadé que le récit biblique contenait certaines inexactitudes. Par exemple, il est écrit que Paul et Barnabas durent quitter la ville d'Icone, en Phrygie, pour se rendre en Lycaonie. Pour Ramsay, ceci était une erreur aussi grossière que de dire qu'un homme quitte la ville de Lille pour se rendre dans le département du nord de la France. Nous savons évidemment que l'île se trouve dans le département du Nord, comme Ramsay croyait que Ikon était une ville de la Lycaonie, jusqu'à la découverte par Ramsay lui-même d'une inscription qui vint confirmer le détail biblique et corriger les connaissances de l'historien. Ceci n'est qu'un détail, penserez-vous, mais il s'ajoute à des centaines et des milliers d'autres. Et si le cadre historique et géographique du message est authentique, peut-on dès lors douter de la véracité de ce message ? Ces considérations ont fait dire à Werner Keller, le célèbre auteur de « La Bible arrachée au sable », toutes ces découvertes, dont on arrive à peine à estimer l'ampleur, nous font envisager la Bible sous un jour nouveau. Des passages qui, jusqu'à présent, étaient fort discutés, deviennent tout à coup des relations historiques. Souvent, les travaux des archéologues corroborent les textes bibliques, jusque dans leurs moindres détails. Devant la multiplicité des preuves que nous a fournies la science, je ne puis m'empêcher de penser à toutes les critiques et aux polémiques qui, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, cherchèrent à discréditer la Bible et de me répéter encore et toujours « la Bible a raison ». À cela, nous devons ajouter que la Bible n'est pas un manuel d'histoire ou de géographie, une œuvre d'érudition accessible aux seuls savants. Elle est bien plutôt la porteuse d'un message qui s'adresse également à tous les hommes, sans distinction de race ni de couleur de peau, quel que soit leur degré de culture ou leur situation sociale. Et ce message, qui est sa raison d'être, peut se résumer en ceci : l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes, en la personne du Christ, pour appeler à lui un peuple qui ne sera pas comme les autres, une Église soumise à sa loi et fière de porter son nom.